La Méridienne.
On a deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Khalifa Papis Souané, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et Benjamin Jaïr, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Khalifa Papis Souané, vous venez du Sénégal, du coup, de Casamance et du village de Cabadio. Et vous luttez au quotidien contre l'exode.
Oui, c'est une lutte logique pour moi parce que j'ai vécu dans ça. J'ai grandi dans ça, donc le moment est venu qu'on donne sens à cette lutte. C'est des déplacements, des conséquences, des idées, des actes. Donc là, on en est là aujourd'hui, quoi.
Et Benjamin Jaïr, président de l'association Perma Cabadio, qui lutte également contre l'exode des jeunes grâce à la permaculture.
Oui, entre autres, tout à fait.
Et depuis une vingtaine d'années.
Depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, oui.
Ok. Et ben, je propose qu'on commence par un portrait de Papis pour savoir qui il est, d'où il vient et puis connaître un petit peu sa vie au Sénégal. Vous avez quel âge ?
Aujourd'hui, j'ai 36 ans.
Ouais. Et vous êtes né à Cabadio ?
Je suis né à Cabadio, grandi à Cabadio.
Ouais. Et dans une famille qui ressemble à quoi ?
Souané, ma famille ?
Ouais.
Ouais, c'est la famille religieuse plutôt, je vais dire, côté religieux. Et nous, on est nés dans ça. Nos ancêtres, nos grands-parents, ils convertissaient des gens dans la religion musulmane. Ils apprenaient les gens à lire le Coran. Et donc, chaque vendredi, ils font des serments, les laïds et tout. Donc, nous, on est nés dans ces conditions. Donc, entre la vie coranique et la vie française. Donc, il n'y en a pas beaucoup de gens dans ma famille qui ont fait ça, quoi.
Donc, une famille plutôt traditionnelle, enfin.
Traditionnelle et religieuse.
Ouais.
Ouais.
Ok. Et Cabadio, Benjamin connaît bien, mais moi, j'y ai jamais mis les pieds. J'en ai entendu parler. Il ressemble à quoi, ce village ?
C'est un village laïque. C'est un village laïque qui a une mosquée, une église, mais aussi les autres religions, comme on dit, même les athées. Donc, c'est un village où, quand c'est la religion, les religieux se manifestent. Logiquement, comme le vendredi ou le vendredi à la mosquée, le dimanche à l'église. Mais quand on est ensemble, on est dans la tradition, on est dans les activités sportives, culturelles, et on est dans le tourisme, on est dans des projets. Donc la religion, quand l'heure arrive, on la fait. Mais c'est un village traditionnel, un village qui a des ethnies différentes, telles que le mandingue, le diola, le peul et tout, mixte. Ouais. Et c'est un village qui accepte toutes les autres ethnies et c'est un village aussi qui a des, comment on appelle encore, des forêts, des forêts sacrées. C'est un village aussi qui a une plage, c'est un village qui a beaucoup de forêts aussi.
Okay. Ouais. Et c'est grand comment ? Il y a, en termes d'habitants par exemple, il y a combien d'habitants à peu près ?
Aujourd'hui on a dépassé les 4000 habitants, on va vers les 5000 maintenant.
Ouais.
Ouais.
Nous on appellerait ça une ville.
Ouais, c'est ça.
On peut appeler ça un village encore en Afrique et notamment dans l'Afrique de l'Ouest parce que sur ces 4 ou 5 000 futurs habitants, il faut noter que 65% de la population a moins de 15 ans. Donc du coup, on est sur une démographie qui est tout à fait particulière, en tout cas qui n'est pas habituelle pour chez nous. Et donc on est plutôt avec encore un fond de polygamie, donc des maris qui ont plusieurs femmes et chaque femme a plusieurs enfants. Et quand on dit plusieurs, ce n'est pas deux, c'est plutôt 8 à 12. Et donc du coup, on a des familles un petit peu plus grandes. Et effectivement, si on prend une population de 4000 habitants, si vous faites 65%, vous avez plus de 2000 personnes qui sont des ados ou des enfants. Voilà.
D'accord.
Donc ça peut pas vraiment être une ville en termes de nombre de résidences non plus. Il y a plutôt 200 maisons, 300 maisons plutôt que mais pour 5000 habitants. Donc c'est.
Et quand vous étiez jeune, papy, il y avait quoi comme infrastructure ? Parce que certainement que ça s'est développé depuis que vous étiez petit, mais il y avait quoi comme infrastructure à Cabadio qu'on se rende compte un petit peu à quoi ressemble le village, quoi ?
Quand j'étais petit ?
Ouais.
Pas beaucoup, hein. Je sais pas ce que vous appelez infrastructure, mais chez nous.
Des écoles, un médecin, des routes.
C'est ça, j'ai bien compris la question. On a une enfance compliquée parce que nous, pour voir la route, il faut sortir de Cabadio, la route goudronnée, je veux dire. Et on a étudié dans des cabanes en feuillage chez nous, mais on avait une seule bonne classe qui est là-bas jusqu'à présent. Et donc, les constructions en briques, Ça s'appelle les briques en banco, la terre battue, qu'on fait des briques en moule, et puis c'est comme ça, et puis on peut voir des fissures et tout. Donc je pense que là, c'était très... on n'avait pas connu ça, quoi. Voilà, on avait un seul hôpital qui était construit par des Français avant notre naissance, et on a une école qui était... Voilà, on a fêté les 50 ans de cette école il y a seulement 4 ans, à Cavaillou. Donc du coup, les infrastructures, ouais, c'était très... c'était pas forcément sur place, quoi.
Okay.
Il n'y avait pas tout
très,
ça.
Très, très rudimentaire, très archaïque.
Ouais.
Et donc, effectivement, ces 20 dernières années, il y a un événement assez particulier, c'est qu'en 2007-2008 seulement, l'électricité est arrivée. Voilà. 2007-2008.
Ouais.
Donc, on imagine donc qu'avant... on était vraiment dans un village dit de brousse, voilà. Alors certains brousse, ça parle pas forcément, mais un peu de jungle, vraiment au milieu de la forêt.
Ça veut dire que quand la nuit tombe, il fait noir
à 19h, ouais. Terminé. Et l'électricité, les lumières vraiment dans les maisons ou à l'extérieur avec quelques lampadaires sont vraiment arrivées autour des années 2010. Donc la possibilité peut-être même de faire ses devoirs le soir ou de lire, voilà. Donc imaginez les conséquences sur le développement que nous on n'imagine même plus puisque pour nous c'est de l'histoire ancienne.
C'est une évidence l'électricité.
J'ai jamais appris, comme il a dit effectivement, j'ai appris là-dessus parce que moi j'ai jamais appris une de mes leçons sous une lampe électrique. Non, 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 c'est que des bougies ou des lampes tempêtes. Qui ont des petites boîtes conserves qu'on
à batterie là
Non, ou à pétrole.
Ou à pétrole. Pétrole. Ah ouais, quand même.
Ouais, ouais. Le pétrole, ouais. On met du pétrole dedans et puis on met la mèche, on l'allume et puis on verre, donc ça éclaircit. Pour ne pas trop bouffer le pétrole, on diminue le volume de la lumière et tout. Donc avec des bougies, parfois les bougies, ça amène des accidents parce que quand tu t'endors et que la bougie s'allume et que ça prend le cahier, quoi. J'ai jamais appris une leçon de toute mon école élémentaire sous l'électricité, non.
Et une autre question pour essayer de comprendre un quotidien qui est très différent de celui que j'ai vécu. Quand il s'agissait de faire ses courses à Cavaillou, où est-ce qu'on achète à manger ou les produits de première nécessité?
On n'achète pas à manger à Cavaillou pour l'instant, mais par contre, il y a des petits restos locaux.
Okay.
Qui sont dans le village, qui vendent des petits déjeuners parce que chez nous, tout le monde... Encore, on a cette tradition de village, quoi. Peut-être les villages à côté, comme Kafountine ou Dululu, on peut avoir des commerçants qui viennent pour pêcher, pour vendre qui sont des marchands ambulants, qui peuvent pas forcément manger tout le temps dans les familles. Mais là, on a les petits restos locaux qui vendent des petits pains, du niébé et tout, mais on n'achète pas à manger là-bas, quoi. Ouais, tu pars dans la famille, tu manges.
Il n'y a pas de commerce.
Si, il y a du commerce, si tu peux développer. Il y a du commerce, ouais.
Ce qu'on appelle des boutiques.
Ouais.
En fait, on est sur le détail aussi bien dans la manière d'acheter que de consommer, c'est-à-dire qu'on va acheter au jour le jour les ingrédients de première nécessité qui nous permettent de cuisiner le riz, qui est l'aliment de base, et on achète au détail. C'est-à-dire que quand je veux cuisiner du riz, quand je suis une mère de famille et que je dois nourrir ma vingtaine de personnes sur le plat de midi, eh bien, j'ai du riz à la maison parce que ça a été acheté en grosse quantité, un sac de 50 kilos chaque mois ou en fonction du nombre de personnes à nourrir. Et je vais par contre acheter mon petit sachet de poivre ou ma petite réserve d'huile ou un poisson parce que, comme l'a dit Papy, il y a le marchand ambulant de poissons qui arrive. Et donc chaque jour, chaque repas, je vais le composer en fait sans ouvrir un frigo, sans ouvrir un placard. Puisque ça, effectivement, non, ça n'existe pas. On ne fait pas de réserve alimentaire. Auparavant, on avait des greniers dans les maisons pour stocker les céréales, notamment le mil qui a complètement disparu avec l'arrivée de la brisure de riz thaïlandaise ou asiatique en tout cas. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'avant, les toits étaient faits en chaume et donc du coup permettaient d'abriter les céréales, le riz ou le mil. Et aujourd'hui, les toits sont faits en tôle et le soleil qui tape sur la tôle crée une chaleur incroyable qui fait que sur le plafond de la maison, on ne peut plus stocker de céréales, on ne peut plus rien stocker.
Ça les fait cuire.
Ouais, ça les fait cuire. Donc il y a eu plein de grands changements dans la société comme ça, jusqu'à la consommation du repas. Et comme le disait Papis, une maison, une famille, une mère de famille ne propose pas de petit déjeuner à ses enfants. C'est chacun qui, avec ses petits boulots, avec ses petites économies, va chercher son bout de pain, son petit déjeuner. Par contre, elle se focalise, la maman, sur le repas du midi, qui est le repas nourricier. Ouais. Parfois même, dans certaines familles, c'est le seul repas de la journée. Et le soir, on finit le riz froid ou on finit ce qui reste du repas de midi. Et le lendemain matin, on finit ce qu'on n'a pas fini encore le soir. On gratte un peu les fonds de casserole pour remanger un petit peu de riz avant de partir éventuellement au travail.
Ok. Donc là, on a un peu planté le décor de là où vous avez grandi, Papis. Quand vous avez grandi, la scolarité, ça ressemblait à quoi ? Est-ce que vous avez suivi un parcours scolaire classique jusqu'à... Je sais pas, en France, on dirait jusqu'au bac, par exemple. Ouais. Comment ça s'est passé, votre scolarité ?
Moi, j'ai suivi mes études jusqu'au bac, effectivement, parce que après, j'ai quitté Cabadio parce qu'il n'y a pas de collège. Je suis allé à Diana, c'était le premier collège de Kafountine. Où Diana, c'est le village qui est au milieu, donc pour permettre à tous les voisins de Abéné et Diana venir étudier là-bas.
D'accord.
Donc après Diana, je suis allé à Kafountine, à Bignona.
Et quand vous dites « je suis allé », c'est vous habitiez toujours à Cabadio et vous alliez dans un autre village suivre les cours et vous rentrez chez vous le soir ou vous
Non,
êtes
on rentre pas chez nous. Chez nous, on a des solidarités entre familles. C'est-à-dire, il y a une maison qui est à Diana, le propriétaire de cette maison connaît mon père ou connaît mon oncle, tout. Donc il y a cette solidarité de « je suis le tuteur de telle personne ». Donc ils nous logent chez eux. Okay. Ils sont nos tuteurs ou tutrices. Donc quand on loge là-bas, c'est eux qui nous donnent à bouffer, c'est eux qui nous donnent à manger. Quand c'est le week-end, on revient au village. Mais on ne peut pas se permettre d'aller à l'école et revenir à Cabadio parce que ça fait une distance. Et donc on loge là-bas.
Okay.
Et parfois, chaque week-end, on vient au village où on reste là jusqu'à là. Si on n'a pas de quoi appeler le transport, on reste là-bas jusqu'aux grandes fêtes de Noël, Pâques ou quelque chose comme ça. Donc voilà, moi j'ai été jusqu'au bac, au baccalauréat, à Bignona.
Chez un oncle ou
Chez un oncle, effectivement, okay. Chez un oncle. Et donc, c'est comme ça. Mais à Cabadio, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée. Donc, je suis allé jusqu'en terminale. C'est là-bas que j'ai fait mon baccalauréat.
Ouais. Et on m'a dit que pour entrer à l'école, c'est une histoire que j'ai déjà entendue, il fallait un cahier.
C'est-à-dire, en gros, l'élève, il peut renvoyer. Parce que le professeur dit, voilà, vous venez avec des cahiers de 48 pages ou de 32 pages, c'est à l'école élémentaire, pour les exercices ou les évaluations, comme on appelle. Donc du coup, il vient, il contrôle. Toi, tu l'as pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon père a dit qu'il a pas les moyens. Ok. Demain, pareil. Après demain, il te dit voilà. Le lundi, tu viens pas avec le cahier. Renvoyer quoi?
C'est fini.
Ouais. On te renvoie. Oh, ça, c'est jusqu'à présent, cette loi, elle est appliquée. Hein. Ouais, c'était applicable pour tous les élèves. Donc là, moi, j'étais tombé dans ça effectivement parce que mon père, il voulait pas que j'étudie à l'école. Et donc du coup, il y avait pour lui, c'était une stratégie avec cette histoire de cahier. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Si la semaine prochaine, je pars pas à l'école avec le cahier, je serai renvoyé. Donc c'est dans ces conditions-là que moi, j'ai rencontré Benjamin.
Et pourquoi est-ce qu'un père ne voudrait pas que son fils aille à l'école?
Non, en fait, l'image de ma famille, je vous l'avais déjà dit il y a seulement moins de 10 minutes, que mon père, tous ses enfants, ils veulent qu'ils deviennent des enfants coraniques. Comme lui. C'est là, en fait, si vous voulez bien, nos parents, ils n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas été à l'école parce qu'ils gardent toujours les mauvais souvenirs de l'exploitation, voilà, ou la traite négrière et tout. Donc voilà, si tous nos enfants vont à l'école, arriver là-bas, ils seront comme les Occidentaux, ils vont être complètement perdus dans la culture africaine et tout. Je ne sais pas si vous avez... En tout cas,
oui, c'est ça, le papa de Papis, qui était le marabout, le leader spirituel du village de Cabadio, craignait l'école parce que c'était la République, c'était l'administration française. Mmh. Et donc, du coup, craignait vraiment...
La colonisation.
Oui, et puis la dépravation, en fait, de ces jeunes, en fait. Ouais, parce que l'exemple a toujours été montré que dans les grandes villes où il y a moins de temps passé à la lecture du Coran ou à la prière, mais plus de temps passé vers des distractions, et puis l'alcool, et puis la fête, et puis etc. Donc du coup, il y a vraiment une grande crainte, et son père me l'a souvent expliqué, non, pour mes enfants, la vraie voie, le vrai chemin, et entendre là par là spirituel, eh bien c'est l'étude du Coran. Donc le papa de Papi, ça crée un lieu qu'on appelle un dara, c'est une école coranique, voilà, où vous pouvez placer votre enfant, un des enfants, comme nous, à une certaine époque où il y avait toujours un des frères ou dans les familles un peu nombreuses qui partaient faire curé, moine, etc. Et bien là, c'est un peu comme ça que cette famille accueille encore jusqu'à une centaine de personnes et d'enfants notamment à qui elle apprend. C'est une sorte de catéchisme géant à l'année. Et ces enfants-là, du coup, notamment les enfants du père de Papis, eh bien, c'était un choix, un faux choix, un non-choix. Mais en tout cas, il n'y avait qu'une seule solution, c'était l'école coranique et pas les deux en même temps.
Ouais.
Et là où Papis, justement, était en train d'en venir, c'est que lui, il avait envie d'aller à l'école et à l'école coranique, donc école républicaine et école coranique, faire les deux.
Ouais. Et pourquoi ? Faire les deux.
Faire les deux parce que je serais mal vu si je fais pas la coranique parce que
par la famille ça aurait
été... par la famille parce que nous sommes nés dans ça, on a été baptisés dans ça, tout ce qu'on faisait, on se levait 5h du matin pour prier et donc après quand c'est bon là on continue les études coraniques autour du feu. Jusqu'à présent cette pratique elle est vivante là chez nous, hein. Donc on a grandi dans ça, donc c'est dommage pour mon père qui est héritier de ses papa, de ses grands-pères, de ses ancêtres, que lui et ses fils descendants puissent quand même éviter ce chemin et aller être des franco-sénégalais, quoi.
Ouais.
Donc voilà, il voulait pas qu'on se perde. Et là, aujourd'hui, justement, on est respecté par ça, en fait, chez nous, en Casamance. Moi, si tu veux bien, quand je rentre, il y a une foule à Bénin, je vous le dis, j'arrive, il y a tout le monde qui est là-bas. Donc voilà, on dit, voilà, on va laisser la parole au fils d'eux.
Ouais.
De, tu vois, ils ont cité mon nom, donc on m'a laissé la parole devant tous les notables, devant tous les gens. J'ai parlé pendant 30 minutes le comportement des musulmans dans la foule et tout, dans la mosquée et tout. Parce qu'effectivement, si je n'avais pas étudié le Coran pour ça, j'aurais pas ce c'est un honneur qu'on garde dans notre famille, en fait.
Ouais. Ouais. Et pourquoi, du coup, vouloir aller étudier dans l'école classique ?
L'école classique, parce que ça, c'est la demande de ma mère.
Okay.
Parce que c'est ma mère qui a dit à mon père que non, parce que ma mère, elle est née à Dakar. Elle est née à Dakar.
Dans la grande ville.
Exactement. Ouais. Mon père a déjà une femme. Et donc, du coup, il est allé faire le maraboutage. Tu vois, ils font des sorties que les citadins viennent leur exposer des problèmes. Ils leur proposent de l'argent et tout. Et c'est comme ça qu'il est allé à Dakar. Là où il est logé, il a vu une femme qui est là-bas. Et donc, il a aimé. Donc, il a demandé à ce qu'il la marie. C'est comme ça qu'il a marié ma mère. Ma mère, c'était la seule femme de ma grande famille qui parlait super bien le Wolof parce qu'elle est née à Dakar, à Wakam. Elle a grandi là-bas pendant 25 ans et mon père l'a vu là-bas, il l'a amenée à Cavalier. C'est pourquoi elle, c'est la deuxième femme de mon père. Donc c'est grâce à ses réflexions citadines, il
son
a dit à mon père,
ouais.
Sinon moi, mes grands frères de ma mère n'ont pas étudié
okay.
et mes grandes sœurs, non.
Okay.
À l'école française, ça a commencé par moi.
À la fin de votre scolarité, le bac en poche, c'est ça ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire, du coup ? Vers quoi vous êtes dirigé ?
Non, j'ai pas le bac en poche, moi. J'ai pas le bac en poche parce que l'année où je faisais le baccalauréat, c'est l'année où j'ai perdu mon père. C'était une année très dure pour moi. Et donc, j'ai pas eu le baccalauréat. Mais je pense que si j'avais eu le baccalauréat, j'allais suivre mon cursus scolaire à l'université. Je sais pas, après je deviendrai un grand politicien peut-être, parce que il y a quand même quelques petites compétences qui entourent ma personne et qui intéresseraient certains hommes politiques. Donc moi aujourd'hui l'école m'a donné deux diplôme de l'école élémentaire, l'intensisme qu'on appelle le CFE, et le diplôme brevet de fin d'études de moyens. Et après, quand j'ai pas eu mon baccalauréat, je suis allé à l'Institut français de Fès pour faire un métier qui s'appelle la formation professionnelle sur la communication.
D'accord.
Donc ça, je l'ai fait et donc ça m'arrange bien parce que ça m'aide beaucoup dans beaucoup de choses. Et donc moi, l'école m'a donné ça, mais après, la formation que j'ai eue aujourd'hui et qui fait de moi ce que je suis, c'est vraiment le cadre associatif avec Benjamin Jaïr que je vous ai dit tout à l'heure. Là.
Calade. La Méridienne.